Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Balado. Aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale, Dr. Caroline Gagnon, présidente en gynéco-obstétrique, avec qui nous aurons la chance d'aborder l'importance d'avoir une pratique inclusive ainsi que les différentes façons pour y parvenir. Donc, bienvenue à Dr. Gagnon. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui.
Allô?
Dans le fond, on va commencer tout de suite avec notre première question.
Oui, donc d'abord, pouvez-vous nous parler de votre parcours en gynéco-obstétrique et de ce qui vous a motivé à vous spécialiser dans le domaine?
Mais dans le fond, moi, j'ai un parcours vraiment très, très standard, très plate, là. Je suis arrivée du cégep, je suis rentrée au préclinique. Puis c'est là que j'ai un petit peu entendu parler de la gynéco-obstétrique. Initialement, je suis rentrée en médecine en me disant que je voulais faire de la psy. Finalement, on est vraiment loin de là, là. Puis finalement, c'est ça, j'ai découvert tu sais, le domaine de la santé, toutes les personnes qui possèdent un utérus. Puis ça m'a hyper intéressée. Je me suis sentie vraiment concernée par le domaine. Puis à l'externat, c'est là que j'ai vraiment accroché. J'ai réalisé que dans le fond, que j'aimais premièrement beaucoup l'aspect chirurgical. J'aime ça quand même, tu sais, être vraiment en contact direct avec les patients puis de faire beaucoup, beaucoup de techniques. Mais aussi, c'est que ce que je trouve beau avec la gynéco-obstétrique, c'est qu'on traite vraiment une population dans son ensemble, pas juste un organe. Tu sais, c'est vraiment la personne dans sa totalité qu'on va traiter. Puis en même temps, on a la chance de faire de la chirurgie, du médical, mais aussi du radiologique. C'est des techniques à tous les jours. On a même un petit côté psy aussi au travers, fait que c'est hyper, hyper complet comme spécialité. Puis c'est ça qui m'a poussé à aller vers ça.
Ah, ben, c'est une très bonne réponse, hein, merci.
Si on continue, sachant que vous êtes une personne qui a accordé une grande importance à l'inclusion dans votre pratique, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou une raison en particulier qui vous a poussé à agir ainsi?
Ben, je ne sais pas si c'est un cours que vous avez encore au préclinique, mais je me rappelle, puis je me souviens même plus si c'est dans le cadre de quel cours, mais on avait une personne qui était justement issue de la communauté trans qui était venue parler un petit peu de son parcours puis de sa transition. J'avais trouvé ça super intéressant de l'entendre nous parler un peu de tous les obstacles qu'elle avait connus dans le domaine médical, tu sais, à quel point ça avait été dur à être entendue, à quel point ça avait été dur que les gens la prennent au sérieux. Tu sais, c'était quand même un gros parcours, puis ça m'a un peu choquée justement de voir que ces personnes-là sont un peu laissées à eux-mêmes. Je me suis dit, hey, moi, dans ma pratique, je veux vraiment changer ça, je veux essayer d'avoir un impact positif sur ces personnes-là. Ça a été comme un peu l'élément déclencheur de hey, la santé trans, la santé, tu sais, inclusive, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis, moi, j'étais impliquée au comité sexpert quand j'étais au préclinique. Je pense que ça existe encore, là. J'étais présidente de ça. Puis, j'avais créé les soirées sans tabou dans laquelle on parlait de, ben, tu sais, c'était à l'exocytose, on s'assoyait, on prenait une bière avec du monde, puis on parlait de plein de sujets. Puis, j'avais invité une fois, justement, cette même personne-là, venant nous parler un peu de son parcours. Puis, une autre personne, là, qui avait fait une transition en nous en parlait. Puis là, à ce moment-là, tu sais, en voyant l'intérêt des gens, en voyant à quel point c'était inconnu de tout le monde, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment inclure tout ça dans ma pratique plus tard.
C'est encore vraiment présent, en tout cas, là, dans notre année, parce qu'on avait aussi, en fait, au début de la session, on a organisé avec Sexpert une
Ouais.
soirée sans tabou sur le même sujet. Puis, est-ce que c'était avec Gris-Québec, la personne qui était venue présenter?
Exactement, c'est ça, Gris-Québec divers genres. Là, cette personne-là, maintenant, travaille aussi pour Arc-en-Ciel. Ça se promène un peu partout, là. Mais oui, c'est les organismes principaux avec qui je travaillais. C'est le fun de voir que ça dure encore.
Oui, puis il y a encore des présentations, mais c'est dans le cours de MMS, là, qui
Ah, OK,
est...
c'est ça, qui viennent dans quoi? Ça se pouvait que ça soit MMS. Je me souvenais plus si c'était MMS ou gynéco.
OK, mais nous, en tout cas, c'est MMS maintenant, mais...
Ouais. Mais vous, est-ce que vous avez un cours maintenant de là-dessus en gynéco? Non, parce que ça va venir un jour, ça. J'ai entendu une médecin me parler que ça va venir, qu'il allait avoir un cours sur toute la santé trans et compagnie.
OK, c'est parce qu'on en parle dans notre cours de justement MMS pour la diversité, mais au niveau des cours système, c'est encore assez spécifique au système en soi. On ne prend pas vraiment la personne dans son ensemble, malheureusement.
Ouais, mais je pense que ça va venir. Vous allez avoir de quoi qui va venir à m'emmener en gynéco. Vous l'avez sûrement déjà fait, mais ça va venir, je pense. Puis c'est important que ça vienne aussi, là. Parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien en gynéco, juste que le monde, ça ne rentre pas nécessairement compte.
Bon, ben parfait. Honnêtement, c'est parfait comme ça. Puis. Sinon, selon vos observations en clinique, pouvez-vous nous parler de certains aspects positifs que le corps médical fait qui permet de favoriser l'inclusion?
C'est sûr qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, je pense, à ce niveau-là. Mais de ce que j'observe, tu sais, c'est qu'il y a certaines personnes, mettons, qui prennent le temps de demander le pronom à un patient. Ça peut quand même faire une différence. Il y en a certains qui portent un petit écusson avec son pronom, fait que sans devoir le demander, tu sais, juste d'avoir ton petit écusson, ça montre que tu es ouvert à entendre le pronom de l'autre. Fait que ça qui est bien. Mais, tu sais, je trouve que ce qui est le plus vu, puis qui est super acceptable et hyper respectable, c'est que sans nécessairement demander le pronom à quelqu'un, quand on se trompe, puis qu'on méjore quelqu'un, ben les gens font comme « Ah, oh, excusez, je me suis trompée », puis là, ils corrigent leur vocabulaire à partir de ce moment-là. Fait que ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup, puis le monde sont super ouverts à ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun de voir que c'est présent.
Puis, ça me donne une autre question, mais est-ce que, selon toi, ça s'est bien vu? Par exemple, si un externe apporte son petit écusson avec les pronoms au niveau
Absolument.
des résidents ou des patrons, est-ce que ça va être...
Ça va être hyper bien vu. Moi, je vais l'encourager. T'sais, moi, mettons, mon écusson, c'est pas tout le monde qui comprend ce que ça veut dire. Moi, je le porte pour que ça résonne dans la tête de la personne que ça va concerner. T'sais, je me fous un peu de ce que les autres pensent de mon écusson. L'autre jour, mon patron qui est venu me voir en me disant She, her, pourquoi, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux nous montrer que t'es féministe, tu sais? J'étais comme, j'ai comme expliqué un petit peu le point, mais moi, je vois un externe avec ça, je vais être ultra, ultra contente de voir que l'externe est ouvert d'esprit comme ça, le fait que c'est hyper bien vu. Moi, je pense que, tu sais, tout le monde doit faire son petit écusson, mais ça, c'est mon biais professionnel.
Ouais.
Est-ce que vous voyez, mettons, en parlant avec les patients, que, tu sais, vous le voyez chez eux, que ça a quand même un impact, là, tu sais, la manière que faites des efforts envers eux, même si ça ne les rejoint pas nécessairement, là, t'sais, sont-ils reconnaissants quand même?
Oui, vraiment. Puis il y en a qui notent genre, ah, oh, ton écusson, nice, merci. Moi, mon pronom, c'est il, mettons. Fait que je vois déjà juste que ça montre une petite ouverture, puis c'est super apprécié de la part des gens.
C'est sûr.
Ça concerne vraiment pas toute ma clientèle, là, on s'entend. Là, quand je fais une clinique d'urogynéco avec des patientes, tu sais, plus âgées, ben ils vont rien comprendre de mon écusson. T'sais. Ça va pas résonner dans la tête à tout le monde, mais pour ceux chez qui ça a un impact, ben ça vaut vraiment la peine.
Puis, par exemple, pour l'écusson, est-ce que ça a déjà amené des réactions négatives chez
Jamais.
certaines clientèles ou... OK.
Jamais. Non, c'est du monde qui me demande c'est quoi, mais jamais des réactions négatives. Puis, tu sais, il y en a qui me demandent c'est quoi, puis ils comprennent pas trop c'est quoi la diversité de genre, puis j'explique brièvement, puis rendu là, ils font ce qu'ils veulent avec l'information, puis c'est tout.
On a parlé beaucoup d'aspects positifs, mais est-ce que vous avez remarqué des aspects qu'on pourrait améliorer pour justement le favoriser l'inclusion?
Oui, absolument. Ben, un des gros problèmes en lien avec tout ça, c'est surtout les points un peu administratifs de la chose. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui fait une transition, souvent va vouloir changer son nom, mais changer, tu sais, son nom légalement, ça coûte beaucoup, beaucoup de sous. C'est beaucoup, beaucoup de paperasse aussi. Fait que souvent, les gens, ben, sur leur carte RAMQ, quand ils arrivent, ils ont leur ancien nom. Puis, tu sais, c'est associé à un autre pronom. Fait que la commis, mettons, quand elle les accueille, ben, elle les nomme par le mauvais pronom, elle les nomme par le mauvais nom aussi. Fait que ça, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes à ce niveau-là, puis ça crée beaucoup de dysphorie chez les gens. Fait que je pense qu'à un moment donné, si on serait capable d'avoir un système qui permettrait juste de, tu sais, écrire, nous, le nouveau nom de la personne, puis écrire son pronom dans son dossier pour que ça reste là, pour qu'on arrête à chaque fois de, comme, revenir chercher ça, de leur demander à chaque fois, tu sais, ça devient hyper tannant puis drainant pour ces personnes-là. Fait que ça, je pense qu'il pourrait être fait. Puis, tu sais, je pense qu'on pourrait aussi informer davantage les professionnels sur le fait que ça existe, là, parce que, tu sais, j'en ai entendu des gens me parler de, ils expliquent justement devant la commis que ça, c'est leur nouveau nom, faut les appeler par ça, c'est ça leur pronom. Tu sais, la personne est comme pas hyper réceptive, elle comprend pas beaucoup la réalité, fait que c'est plus dur après ça pour eux de poser les bons gestes pour se corriger, vu qu'ils comprennent pas. Fait que je pense qu'on pourrait faire vraiment beaucoup, beaucoup plus d'éducation aussi à ce niveau-là.
OK, je comprends. Ben c'est assez clair, là. Puis sinon, avez-vous des initiatives personnelles? Vous en avez parlé un peu là, avec vos écussons, dans votre pratique pour valoriser le sentiment d'inclusion?
Oui, mais c'est ça. L'écusson, tu sais, ça, c'est la chose facile que je me casse pas la tête, là, sur mon collier, puis j'y pense plus. Puis sinon, mais je pense que d'employer quotidiennement un vocabulaire neutre, ça l'aide beaucoup. Parce que, tu sais, je ne cacherai pas que je fais super attention souvent quand je rencontre des patients, je leur dis, tu sais, des fois, je leur dis, ah, moi, mon pronom, c'est ça, vous, c'est quoi, ou juste avec mon écusson, j'essaie d'être ouverte à ce qu'eux me disent le leur. Mais, tu sais, la clientèle trans, c'est pas la majorité de ma clientèle. Fait que, tu sais, je prends pas la peine de me pencher sur la question des pronoms à chaque patient, mais d'employer un vocabulaire neutre, ça fait que si pour cette personne-là, je ne l'ai pas faite, mais j'emploie quand même un vocabulaire qui fait pour tous les genres, fait que ça pose comme pas de souci. Fait que c'est au début, il faut y penser, mais c'est un réflexe qui se prend quand même rapidement. T'sais, mettons juste dans la vie, au lieu de dire beau, belle, tu peux dire jolie, t'sais, ça passe pour les deux. Fait que c'est des petites initiatives comme ça qui font qu'à un moment donné, ça devient plus facile aussi. Puis, tu sais, en gynéco, on questionne beaucoup, beaucoup les habitudes sexuelles aussi. Et ça, je pense que c'est un réflexe que j'ai fini par adopter là, avec les années, de questionner les gens sur une sexualité, tu sais, vraiment plus ouverte. Il y a beaucoup de personnes, mettons, qui voient un patient en gynéco, ben, ils disent Ah, puis votre chum, en avez-vous un, tu sais, puis il questionne directement les relations par rapport au couple hétérosexuel. Fait que tu sais, de dire genre, avez-vous des partenaires, vous? Puis tu sais, après ça, je questionne comme, OK, puis vos partenaires, tu sais, c'est-tu homme, c'est-tu femme, non-binaire, j'essaie de questionner un peu ça, puis je questionne ça de manière complètement banale pour que ça a l'air comme une question que, comme je leur disais, bonjour, ça va bien, tu sais. Je fais ça vraiment sans. De manière complètement banale, puis ça passe hyper bien, puis le monde font comme, ah, oh, tu sais, c'est une question comme une autre. Fait que de questionner vraiment les habitudes sexuelles des gens de manière complètement ouverte, comme si c'était une question qu'on pose à tout le monde. Fait que ça aide beaucoup. Puis, autre chose que j'ai remarqué qui était super importante aussi quand on voit quelqu'un qui est de la diversité de genre qui vient nous voir, c'est de questionner eux autres c'était quoi leur expérience avec le système de santé auparavant. Surtout quand je m'en vais pour faire un examen gynécologique, là, je leur demande, tu sais, avez-vous déjà vécu ça dans le passé? Comment vous avez trouvé ça? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour rendre votre expérience plus agréable aussi? Des fois, c'est aussi simple que juste demander aux autres comment ils sentent par rapport à ça. Puis, il y en a qui vont me dire, hey, moi, les étriers, je trouve ça hyper malaisant, je me sens pas bien dans cette position-là. On peut-tu faire ça sans les étriers? OK, on va trouver une solution. C'est toutes des petites affaires comme ça, juste en leur demandant, on s'adapte.
OK, c'est vraiment des bonnes idées. Puis, je me questionnais parce que je sais que pour plusieurs étudiants, on n'est pas habitué, là, malheureusement, d'employer un langage qui est non genré. Est-ce que tu as d'autres trucs, un peu, d'autres tournures de phrases que tu prends dans ton quotidien pour essayer de non genrer?
Oui, bien, tu sais, moi, mettons, c'est rare que je dis patiente quand je parle, tu sais. Je vais toujours, tu sais, parler de ma clientèle ou quand je parle de gens, bien, je dis, justement, je dis pas des femmes, je dis des personnes. Fait que c'est de trouver des termes un peu plus neutres comme ça. Puis, mettons, les habitudes sexuelles, je me suis vraiment questionnée longtemps à essayer de trouver le mot le plus non genré, puis je pense que partenaire, ça semblait assez quand même neutre. Mais ça va venir au fil du temps. Vous allez voir quand vous allez faire vos stages à l'externe aussi, en questionnant les patients, vous allez finir par trouver vos propres tournures de phrases qui sonnent fluides quand vous les dites, là.
Ben c'est des honnêtement, j'avais pas pensé justement là, à clientèle là, pour nos patients, parce que
Ouais.
justement. On dirait qu'on ne sait jamais quoi dire non plus pour trouver quelque chose qui est non genré, mais c'est une
C'est ça.
bonne.
Parce que, tu sais, nous, tout le monde parle des patientes puis des femmes, mais c'est pas ça. J'ai pas juste des patientes, j'ai aussi des patients. Fait qu'il faut vraiment trouver une solution à ça. Puis, tu sais, moi, je parle pas, justement, quand je parle de la gynéco, ben je parle pas de la santé des femmes, je parle de la santé des personnes qui portent un utérus. Puis même encore, là, il y en a qui en ont plus non plus, mais tu sais, on essaie d'y aller quand même. J'essaie d'inclure le plus possible, on s'adapte, mais c'est ça, pour genre un petit peu tout le monde.
C'est super intéressant. C'est un peu dans le même ordre d'idée, là, mais on se demandait si c'était possible pour vous de nous parler des initiatives que vous avez observées dans le domaine médical là, pour justement inclure le plus possible.
Oui, ben, j'en ai déjà parlé à Joey justement de cet événement-là, là, mais dans le fond, récemment, ben, c'est la première année que j'ai fait ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça passer, mais les résidents gynéco, on fait toujours une clinique de pap test chaque année. C'est comme une clinique gratuite sans rendez-vous que tout le monde peut aller se faire un pap test en fin de journée pour faire la promotion du dépistage du cancer du col. Puis moi, ce que j'avais observé avec cette soirée-là, c'est qu'on n'avait jamais personne qui était issu de la diversité de genre parce que c'est hyper dysphoriant de juste, t'sais, venir s'asseoir dans la salle avec un tas de femmes cisgenres, tu sais, ça crée vraiment un clash. Fait que, tu sais, moi, je m'imaginais homme trans venir m'asseoir dans cette salle-là, qu'on sait que c'est une clinique juste de pap test, là, que le monde sont littéralement juste pour ça. Puis toi, tu es le seul homme de la place. J'imagine même pas comment les gens doivent sentir d'avoir les regards sur eux. Puis aussi d'aller, tu sais, se mettre dans une clinique qui va quand même vite aussi rapidement, puis que le monde prenne pas vraiment le temps de questionner, tu sais, toi, ton confort par rapport aux examens gynécologiques. Je trouve que c'était pas l'endroit le plus adapté pour ces personnes-là. Puis, tu sais, la preuve, c'est qu'il y en avait personne qui venait. Puis, j'ai questionné des personnes aussi, tu sais, mettons des hommes trans par rapport à ça. Puis, ils me disaient, on l'a vu passer ta clinique, puis on n'avait pas le goût d'y aller, tu sais, on voulait pas subir ça. Fait que j'ai décidé cette année de m'allier avec la clinique Spot, puis de créer une clinique de pap test, justement, pour personnes trans et non-binaires. Fait que c'était vraiment réservé juste hommes trans et personnes non-binaires pour venir faire un pap test. C'est la première année, fait que ça n'a pas été une année hyper mouvementée, mais pour les quelques personnes qui sont venues, ça a vraiment eu un gros impact. C'était vraiment le beau à voir.
C'est
Puis
vraiment une bonne idée.
sinon j'ai pas d'autres initiatives en tête. Comme je dis, c'est pas encore assez présent, je trouve, dans nos milieux, fait que j'ai pas encore d'autres exemples à vous donner.
Est-ce que vous sentez, tu sais, vous avez déjà comme trouvé cette idée-là, vous êtes motivé à essayer comme d'améliorer la chose? Est-ce que vous sentez que les personnes médicales qui vous entourent aussi, on s'en va dans une voie qu'on est motivé puis qu'on essaie de trouver des solutions?
Mais je pense que ça dépend beaucoup des intérêts de chacun aussi. Puis peut-être que, tu sais, moi, dans ma génération aussi, c'est un sujet qui nous touche un petit peu plus. Fait que c'est sûr que de mon côté, moi, les résidents, tout le monde était super partant. Puis c'est vraiment, les gens ont le goût de s'impliquer là-dedans. Puis tu sais, moi, je me suis alliée avec une médecin pour faire ça aussi. Puis elle a tellement été réceptive. Dès que j'en ai parlé, elle a dit, hey, vraiment bonne idée. Tu sais, oui, OK, je m'embarque, je te chapeaute sur ce projet-là. Puis les autres médecins aussi ont une belle réceptivité. Fait que je pense que c'est pas tout le monde qui va consacrer, tu sais, toute sa pratique à faire ça, mais le monde sont ouverts. Tu sais, je me suis pas fait bloquer par personne, là.
OK. Puis au niveau plus médical, est-ce qu'il y a des différences en fait, par exemple, dans les procédures ou dans l'approche quand quelqu'un, par exemple, a un traitement hormonal depuis longtemps, quelqu'un avec un utérus, par exemple, est traité depuis longtemps avec des hormones,
Bon, genre.
est-ce que c'est la même chose environ ou il y a des différences?
Il y a quand même des différences. C'est super intéressant, justement, que tu demandes ça. Par exemple, quand je fais un pap test à quelqu'un qui prend de la testostérone depuis quand même un petit bout, il y a quand même des changements physiques. Fait que c'est plus difficile à faire comme examen. Il peut avoir un petit peu plus d'atrophie. Le col, il change un petit peu d'aspect aussi. Fait que des fois, c'est plus difficile de trouver notre col au spéculum. Puis les tests sont interprétés différemment aussi. Il faut qu'on le mette sur la feuille d'analyse de pap test que la personne prend de la testostérone.
Okay.
Parce que souvent, à cause de l'atrophie que ça vient créer au niveau du col, les pap tests reviennent, tu sais, insatisfaisants, comme s'ils ne pouvaient pas les lire parce qu'il n'y a pas assez de cellules sur la lame. Fait qu'il y a quand même des différences à ce niveau-là. Puis, tu sais, anatomiquement aussi, faut savoir à quoi s'attendre quand quelqu'un prend la testo, juste pour ne pas être, tu sais, surpris la première fois, puis vraiment être à l'aise avec l'anatomie parce que ça fait une bonne clitoromégalie aussi. Fait qu'il faut comme être à l'aise aussi à faire un examen, faire attention, être minutieux, puis pas trop. Mais tu sais, il faut être délicat dans ce point-là. Mais en gros, c'est les changements-là qu'on observe.
Ah, ben c'est super intéressant, merci. Puis, ben ça m'amène à la prochaine question. Comment les professionnels de la santé, par exemple les résidents en gynéco-obstétrique, peuvent-ils être mieux informés et sensibilisés aux besoins spécifiques des patients de la communauté?
Bien, la chose la plus facile, c'est de s'exposer à cette clientèle-là puis de leur demander, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Puis je trouve que c'est le meilleur moyen de s'améliorer parce que c'est un contact direct avec la population et leurs besoins. Sinon, il y a plusieurs ateliers qui sont disponibles. Tu sais, comme on en parlait tantôt, Gris-Québec, Divergeurs et compagnie, eux autres, ils en font des ateliers, là, puis ils sont hyper faciles à rejoindre. Par exemple, nous, on a des cours en gynéco chaque mercredi après-midi. Tu sais, ça serait facile de dire, OK, un mercredi après-midi, on invite ces personnes à venir nous donner un atelier, puis on va jaser ensemble. Moi, je me souviens, une fois, j'étais allée justement à un cours, c'est ORL qui donnait ce cours-là dans un de leurs après-midi d'érudition. Ils avaient invité divers genres à venir donner un atelier. Puis moi, j'étais allée me scouser dans leur cours d'ORL pour parce que ça m'intéressait, mais tu sais, c'est des choses hyper faciles à organiser, il faut juste prendre le temps.
Ok, je comprends.
Est-ce que vous pensez, dans le fond, que les membres de la diversité là, sont une assez grosse population pour être capable de dire là, que peu importe quel gynéco, peu importe quel résident va quand même avoir des patients, tout le monde va être en contact à un certain moment avec une personne, t'sais, de la communauté. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus important là, de savoir comment gérer ça.
Oui, mais je dirais que de nos jours, oui, je pense que pas mal tout le monde va être exposé au moins une fois. T'sais, les gens en médecine familiale, c'est sûr à 100 % tout le monde va en avoir dans ses patients, des fois même sans le savoir. Fait que c'est hyper important d'être exposé à ça. Puis nous, en gynéco, ben, on en voit beaucoup, surtout en fertilité, par exemple. Ça, on en voit beaucoup en colposcopie aussi. Fait que tout le monde va finir par être exposé. C'est sûr qu'il y en a qui ciblent leur clientèle, fait que c'est plus facile d'en voir. Mais je pense qu'il faut que tout le monde soit préparé pour la fois ils vont avoir un patient trans dans sa clinique.
Pas être trop déstabilisé non plus, puis pas comme insulter qui que ce soit, là.
Puis même si c'est t'es pas habitué, puis c'est la première fois que tu vois ça, c'est vraiment correct aussi de le dire au patient comme, hey, je m'excuse, moi c'est la première fois que tu sais que j'ai un patient trans, je connais pas beaucoup ça, peux-tu me corriger s'il te plaît si jamais je me trompe, si jamais j'utilise des mauvais termes, puis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu sais, c'est vraiment correct d'être complètement honnête avec eux puis de leur dire aussi, je pense qu'ils vont préférer ça que quelqu'un qui est pas hyper délicat puis qui a pas l'air hypersensible à la situation.
C'est vrai. C'est vrai, justement, ça nous amène à notre prochaine question. On se demandait comment aborder la communication justement avec ses patients pour s'assurer, tu sais, qu'ils se sentent à l'aise puis compris là, avec le médecin.
Oui, bien, ça revient un peu à ce que j'ai dit, là,
C'est ça.
vraiment, d'en demander directement. Justement, moi, quand j'ai fait ma clinique de pap test, par exemple, Avant là, d'aller faire l'examen, là, je leur demandais eux comment ils voulaient, comment on faisait l'examen. C'était pas moi qui suggérais rien. J'étais comme, ben, je leur disais, normalement, l'examen standard, c'est ça, mais qu'est-ce que vous, ça vous prend pour vous rendre confortable? Puis ça fait vraiment une différence. Vraiment, vraiment. Ah.
J'aimerais ça te relancer là, sur. Tu as parlé brièvement justement des qu'il y en avait beaucoup, là, par exemple, au niveau des rencontres pour la fertilité. Est-ce
Ouais.
qu'il y a des particularités particulières? Est-ce qu'il y a certaines particularités chez ces patients-là pour la fertilité?
Mais absolument, parce que c'est rendu là, il y a 1 000 scénarios cliniques possibles, mais tu sais, en fertilité, par exemple, ben, on voit beaucoup de couples homosexuels. Fait que il y a ça déjà là, qu'on peut fonctionner soit avec, tu sais, don de sperme ou avec fertilisation in vitro, tu sais, tout dépendamment de comment les gens veulent procéder. Puis quand on a des couples avec une personne trans, ben, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Soit la personne a déjà subi une chirurgie, dans le fond, stérilisante, fait que là, on peut plus utiliser ses ovaires. Ou la personne a voulu garder ses ovaires, mais là, à prendre la testostérone. Fait que là, on voudrait, par exemple, prélever ses ovules, mais là, est-ce que c'est aussi efficace en prenant la testostérone? Il y a comme plusieurs choses à prendre en
OK.
considération. Puis, les études sont pas encore hyper bonnes, je vous dirais, pour ces choses spécifiques-là, là, tu sais, mettons testostérone et fertilisation in vitro, parce que on commence à en parler, ça commence à émerger comme sujet. Mais c'est toutes des considérations à prendre, puis aussi la sensibilité de se dire, ben, ça se peut que j'ai un homme trans à un moment donné qui arrive puis qui, tu sais, qui veut utiliser son propre utérus pour porter un enfant, puis ça existe, puis on en a accouché les hommes trans, là. Fait que il faut juste avoir la sensibilité de comprendre un peu comment aborder ces personnes-là.
Puis, sans avoir justement des études qui sont à grande échelle, comment vous faites pour naviguer avec ça?
Ben, c'est sûr que moi, je suis encore juste résidente, fait que
Ouais.
la c'est moins encore mon domaine, là, c'est une sur-spécialité, mais il y a des fertologues au CHUL qui sont hyper habitués de travailler avec ces clientèles-là, puis la majorité de leur clientèle, justement, c'est des couples homosexuels ou des personnes trans. Puis eux, ils ont dégagé quand même une bonne expertise dans le domaine, puis ils sont capables de gauger justement avec la personne, OK, il n'y a pas beaucoup d'études sur l'arrêt de la testo ou pas pendant les traitements, fait que vous, qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? C'est un peu une discussion partagée aussi avec la personne.
OK.
Veux-tu qu'on arrête ta testo ou qu'on la garde? Parce que tu sais, arrêter la testo, ça dévirilise un petit peu aussi. Fait que tu sais, c'est toutes des choses à prendre en considération. La personne, est-ce qu'elle veut miser plus sur la fertilité ou elle veut faire un compromis puis garder ses hormones, tu sais, pour se sentir bien dans son corps? Fait que c'est vraiment une discussion partagée avec les patients, mais il y a deux patronnes spécifiques là, qui font ça au CHUL, puis ils sont rendus excellentes pour naviguer avec ça. C'est d'ailleurs elles qui font aussi les chirurgies là, du racinement de genre plus là, fait qu'ils font des hystérectomies pour hommes trans.
Puis, est-ce que tu es au courant si ils travaillent souvent en collaboration avec, par exemple, les endocrinologues?
Oui, absolument. Il y a
OK.
un endocrinologue, tu sais, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de clinique dédiée à ça là où je travaille, mais il connaît ses endocrinologues, puis ils travaillent ensemble à ce niveau-là. Ils n'ont pas le choix.
Ben, c'est très intéressant, merci. On a déjà abordé la question, là, mais c'est quoi les approches en ce qui concerne les. En fait, quelle est votre approche en ce qui concerne l'utilisation des pronoms corrects et respectueux dans votre pratique quotidienne?
Ben, tu sais, je répète encore, mais l'écusson, c'est une belle porte ouverte juste pour que les gens sachent qu'il est ouvert. Tu peux demander le pronom au patient. Puis, je te dirais que le plus important pour avoir une approche respectueuse, c'est juste de, quand tu te trompes, tu t'excuses puis tu te corriges après. C'est de faire attention à ça. Les gens sont super compréhensifs. L'important, c'est vraiment juste de faire un effort. Il n'y a personne qui va être fâché parce que tu t'es trompé de pronom une fois. Tu sais, on est humain, le monde savent que c'est nouveau, qu'on n'en entend pas encore hyper parler. Fait que juste de voir qu'après ça, tu fais un effort pour te corriger, ça, t'sais, ça va être mieux que pas du tout jamais se corriger, là.
Ouais, je comprends.
Puis, tu sais, on va pas se le cacher, c'est un examen gynécologique, ça doit être plaisant pour personne, là. Il y a personne qui dit, yeah, je m'en vais voir la gynéco. Mais pour ces personnes de cette communauté-là, justement, est-ce que vous sentez que, tu sais, c'est encore plus quelque chose comme une tâche pour eux de venir vous voir? Tu sais, sont-ils comme encore plus mal à l'aise?
Oui, et c'est sûr que, tu sais, de venir dans une clinique de gynéco, par exemple, quand tu es un homme trans, ben, il y a aussi le fait que il y en a beaucoup qui ont peur de se faire juste regarder, tu sais, pourquoi un homme est dans une clinique de gynéco. Fait qu'il y a cette première étape-là. Il y a toute l'étape aussi de devoir passer par le système administratif, tu sais, c'est pas juste un examen gynéco, c'est des fois juste de venir chercher des soins de santé, ils vont dire, OK. Ils vont mal utiliser mon pronom, ils vont m'appeler par le mauvais nom dans la salle d'attente. Il va falloir que je me lève alors qu'ils vont utiliser un pronom féminin, tu sais. Il y a tout ça, là. Tu sais, quand mettons, là, je sais pas, mettons que je changeais de nom pour Joey. Puis là, ben moi, je suis dans la salle d'attente, puis on m'appelle Caroline, Caroline, Caroline. Puis à un moment donné, tu le sais que c'est à ton tour, il faut que tu te lèves, mais tu n'as pas le goût de te lever quand on t'appelle Caroline parce que tu t'identifies à Joey, puis tu as l'apparence de Joey, tu sais. C'est ça qui est un petit peu tannant. Fait qu'il y a ça, puis après ça, venir chercher l'examen gynécologique. Ben, c'est sûr que c'est pas comme aller voir ton cardiologue, là. C'est quand même, pour certaines personnes, c'est très, t'sais, dysphoriant comme événement. Il y en a qui le prennent, t'sais, vraiment, vraiment super bien, puis c'est un examen comme un autre. Mais il y en a, t'sais, que ça va leur rappeler un petit peu la féminité. Et c'est quand même, t'sais, jouer dans une région sensible, qu'eux, ils aiment pas beaucoup regarder. Fait que, oui, pour certaines personnes, c'est vraiment une tâche, puis ça pousse certaines personnes à reporter des soins de santé qui sont pourtant, t'sais, vraiment très primaires et primordiaux. Là.
Il y en a-tu justement qui, je sais pas si ça se peut, là, mais tu sais, comme refuser d'aller, tu sais, comme ils ont trop, ils ont honte, ou peu importe, ils veulent pas, ils repoussent, mais tu sais, c'est quand même leur santé aussi physique, fait que c'est important, là.
Absolument. Mais justement, dans la clinique de Baptiste que j'ai fait, tu sais, ça m'est arrivé justement de voir des personnes. On commence à faire les Baptistes à 21 ans. J'ai des personnes actives sexuellement, puis j'ai eu des personnes dans la trentaine qui venaient en me disant comme, hey, j'ai jamais osé venir me faire un Baptiste parce que j'avais pas envie de m'imposer ça, j'avais pas envie de faire mon examen gynéco. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui gardent en tête en se disant, ben, de toute façon, à un moment donné, je vais l'enlever mon utérus. Ils sont sur la liste d'attente. Mais c'est long, les listes d'attente. Pas juste pour les personnes trans, là. Les listes d'attente en chirurgie actuellement sont excessivement longues. Puis comme c'est une chirurgie, tu sais, vraiment non urgente, là, très élective, ben, les délais sont incroyables. Fait que le monde, ben, ils se disent, OK, mais j'attends, j'attends, mais il y a un cancer du col qui a le temps de s'installer entre-temps, par exemple, là, ou une lésion, tu sais, précancéreuse. Fait qu'il y en a qui se privent de ces soins de santé-là à cause de ça. Fait que j'ai trouvé ça fou de me dire comment les personnes savaient qu'ils avaient besoin d'un pap test, mais ils venaient pas.
C'est triste, ça,
Ouais.
entendre.
Ouais, vraiment. Mais justement, ça m'a fait super du bien de voir qu'avec la clinique, ça a ouvert une porte. Parce qu'ils se sont dit, enfin, on a un endroit pour le faire, t'sais, un safe space pour avoir ce soin gynécologique-là.
C'est vraiment
Mais
intéressant.
j'ai une question parce que je ne suis pas certain, mais je crois qu'ils veulent développer pour faire des baptême en auto-prélèvement.
Oui, exactement. T'as bien vu ça. Ça va vraiment, vraiment changer la game. Tu sais, moi, ma clinique de Baptiste, je triple. C'est la première année que je la fais, puis je la ferai à chaque année parce que c'est vraiment ma clientèle, là. J'adore ça. Mais le jour où on va avoir les auto-prélèvements, ça va tellement changer la game parce que là, dans le fond, actuellement, ce qu'on fait, c'est on va gratter des cellules sur le col pour voir un petit peu les cellules précancéreuses. Mais le cancer du col, c'est causé par le VPH. Puis une fois qu'on a des lésions au niveau du col, bien là, nous autres, en clinique, on va prélever avec un autre genre de petit bâtonnet, là, s'il y a du VPH ou non. Mais l'auto-prélèvement du VPH, ça va être juste comme un peu un test de clame gonneau que tu peux faire
Okay.
en auto-prélèvement. Tu rentres ça, tu tournes ça au niveau du col pour détecter le VPH, puis ça sort positif ou pas, fait que ça change vraiment la donne. Le monde n'aura pas besoin de venir se soumettre à un examen gynécologique pour ça.
Encore plus pour cette population-là, justement, que ça peut être quand même angoissant, là.
Ouais, vraiment, ça va vraiment changer la donne. Puis j'ai vraiment hâte que ça arrive. Je sais pas, ça va être quand. Je sais pas, je vais le voir dans la présence, mais je sais que ça a déjà été implanté, si je ne me trompe pas, à d'autres places au Canada. Fait que c'est le temps que ça arrive.
Sinon, on se demandait aussi, en tant que résidente, est-ce que vous avez reçu une formation spécifique sur la prise en charge des patients de cette communauté au cours de votre parcours de formation médicale?
Hey, pas du tout. C'est vraiment le cours que j'ai eu, c'est comme vous en MMS qui venait pour nous ouvrir un petit peu l'esprit. Puis ça a été ça, en gynéco, c'est sûr qu'on en parle au quotidien. J'ai des médecins qui sont plus intéressés par ça. Fait que moi, je leur pose beaucoup de questions, puis eux, ils m'exposent à leur vécu. Puis ça, c'est super intéressant, mais j'ai jamais eu un cours qu'on s'est assis puis qu'on en a parlé, là. Fait qu'il faut
Okay.
pas faire tes propres recherches puis t'arranger pour avoir tes propres connaissances là-dessus, là.
Ouais, c'est pas l'idéal, mettons, là. Pour ceux qui n'ont pas la motivation de le faire, là, ils l'auront jamais.
J'ai une raison, mais tu sais, comme je disais, on a des après-midi d'érudition, puis à un moment donné, il y a une résidente en fertilité, justement, qui, elle, dans le cadre de son stage de fertilité, a décidé de me faire justement une présentation là-dessus, un peu sur la prise en charge des personnes trans en fertilité. Puis ça, c'était hyper, hyper intéressant. Puis tout le monde était comme crème, on manque tellement de connaissances, mais c'est vraiment tout ce qu'on a eu.
Comment intégrez-vous l'éducation sexuelle inclusive dans vos consultations, en particulier en ce qui concerne les patients de la communauté? Puis, c'est quoi les sujets spécifiques que vous abordez justement pour promouvoir la santé sexuelle dans cette population spécifique?
Ben, mettons qu'on prend justement les hommes trans et les personnes non binaires, c'est hyper important de faire un rappel sur l'importance du dépistage du cancer du col, comme j'en ai déjà parlé. C'est comme je vous disais, il y en a plusieurs qui vont dire, hey, ben, de toute façon, j'aurai une hystérectomie, fait que j'en ai pas besoin. Ou il y en a qui disent, ben, tu sais, ça me concerne pas, j'ai plus de relation avec de pénétration, ça me concerne pas. Alors que dès qu'il y en a eu dans le passé, ils sont à risque. Fait que c'est vraiment important de reprendre ça avec eux, de démystifier la chose, puis de leur rappeler que c'est hyper important pour leur santé. Puis sinon, si je prends, tu sais, si je reste plus dans la communauté LGBTQ sans directement rester sur les personnes trans, par exemple, des femmes homosexuelles qui viennent me voir, ben c'est important pour eux aussi de faire la prévention, tu sais, de tout ce qui est ITSS, tu sais, de rappeler que tout se transmet aussi via les jouets sexuels. On peut parler des types de lubrifiants qu'il faut utiliser, si on utilise tel type de condom sur tel type de jouet sexuel aussi pour pas qu'il y ait de bris dans les condoms. On peut parler d'autres types de protections qui sont disponibles sur le marché aussi pour les relations de personnes homosexuelles, par exemple la digue dentaire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Tu sais, c'est nono, là, c'est quelque chose qu'on trouve chez le dentiste. Initialement, c'était fait pour le dentiste, mais ça peut aider pour faire une protection pour le sexe oral, justement. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est au courant. Fait que de faire la promotion de choses comme ça, je pense que c'est important dès qu'on a l'occasion, tu sais, dès qu'on a du temps en clinique, là, de vraiment prendre le temps de faire le point avec eux là-dessus, même si c'est pas ça, pour ça du tout qu'ils viennent nous voir.
Justement, parce qu'on sait que la réalité avec la clinique, c'est souvent un manque de temps. Est-ce que c'est, selon toi, c'est réaliste de faire ça? Est-ce que vous avez le temps, en fait, de le faire ou vous devez couper ailleurs un peu?
Est-ce qu'on a le temps? Non. Est-ce qu'il faut prendre le temps? Oui. Fait que,
OK.
c'est un peu ce rendu-là, tu modules un peu. Tu sais, des fois, là, mettons, dans une grosse clinique, ben, tu sais, c'est genre en examinant, mettons, la personne que je fais comme. Tu sais, parle pas, genre, c'est un peu. Ça me fait rire. J'ai un patron qui appelle ça de l'anesthésie vocale. C'est pendant que tu fais ton examen, tu jases de d'autres choses. Fait que des fois, c'est juste de jaser de sujets légers comme ça, tu sais, d'un peu de pratique sexuelle, puis de.
OK.
Pendant ce temps-là, tu sais, c'est comme un petit sujet léger pour faire de l'éducation pendant que tu fais ton examen. Mais sinon, moi, dans mon questionnaire gynéco, quand je questionne les personnes qui viennent me voir, j'ai toujours, toujours une question, puis je le mets dans ma note médicale, tu sais, de partenaire, tu sais, actif ou non sexuellement. Fait que ça, quand, tu sais, avec la, selon ce que la personne me dit comme réponse, bien là, je fais comme, ah, oh, plusieurs partenaires, pas de condom, OK, puis pourquoi pas de condom? OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour penser à avoir des condoms lors de ces prochaines relations-là, tu sais? Je ne vais jamais laisser quoi passer si je vois qu'il y a un comportement sexuel à risque. Je prends quand même le temps d'en parler.
OK. Puis, c'est ce qui nous amène à notre dernière question. En fait, pouvez-vous nous partager des expériences positives où votre approche inclusive a eu un impact significatif sur la vie d'un patient de la communauté? Puis, comment ces expériences ont-elles influencé votre pratique médicale?
Bien, c'est sûr que je vous dirais que dans mon. Parce que moi, tu sais, je ne suis pas une résidente très, très avancée. Fait que pour ce que j'ai de parcours, tu sais, ce qui a été le plus significatif, c'est vraiment la clinique de Baptiste que j'ai organisée. Puis, tu sais, sans trop embarquer directement dans des cas de patients en particulier à cause de la confidentialité, je vous dirais juste que, at large, comme je vous disais, de voir que ça a fait une différence pour ces personnes-là d'avoir un safe space pour venir chercher des soins gynécologiques. C'est fou comment ça m'a fait du bien de voir que ça avait un impact. Il y en a que c'était leur premier pap test à vie, alors qu'ils en avaient besoin depuis des années. Et il y en a que c'était pas leur premier pap test, que, ils faisaient un pap test, mettons, chaque année dans une clinique de médecins de famille. Et, mais tu sais, qu'ils m'ont dit, hey, tu sais, si tu savais l'expérience que c'était à chaque fois d'aller voir le médecin, que le médecin dise à chaque fois qu'il n'était pas trop à l'aise, mais tu sais, qu'il fait pareil parce qu'il faut qu'il le fasse, tu sais. Ou d'être dans une clinique, justement, une clinique juste de gynéco, puis de devoir aller là en tant qu'homme, tu sais. Fait que ça m'a fait du bien de voir que ces personnes-là, même si chaque année, ils prenaient le temps d'aller, ben, chaque 2 ans, ils prenaient le temps d'aller faire leur pap test, ça m'a fait du bien qu'ils me disent, c'est le fun de voir que maintenant, on a un lieu exclusif pour faire ça, puis qui est réservé à nous, puis qu'on le sait que les gens qui vont être là, ils vont comprendre ce qui se passe. Fait que ça, c'était le fun. Puis, tu sais, comme je dis, c'est vraiment pas une clinique qui a touché beaucoup de gens, là. Vraiment pas, là. C'était une première édition très, très petite. Mais pour le peu de personnes que j'ai rencontrées, ça a eu vraiment un grand impact, puis ça a vraiment fait du bien.
Mais sachant que cette population-là, souvent, ils n'ont pas les meilleurs liens avec les hôpitaux et les professionnels de la santé, même si ça a changé la vie, ben, la vision en fait d'une personne, c'est déjà pas mal.
C'est ça. Mais tu sais, j'ai quand même pas fait cette clinique-là directement dans les hôpitaux, là. Tu sais, j'ai fait ça avec Spot, dans les cliniques de Spot, pour
OK.
vraiment. Ouais, pour. Justement, créer un safe space, là, tu sais, la salle d'attente, c'était des divans, et
OK.
un bureau bien cosy, tu sais, pas un bureau de gynéco standard, le fait que ça l'a beaucoup aidé, je pense aussi. Le monde était là dans la salle d'attente avant, puis ils se parlaient, on avait des snacks, c'était comme hyper, hyper relax comme monde.
Okay. Puis, c'est une question là, qui diverge un peu, là. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler que les gens doivent payer, par exemple, pour aller à des endroits au privé qui se sentent plus à l'aise qu'au public?
J'ai jamais entendu parler de ça, mais je doute que le monde serait nécessairement plus à l'aise au privé qu'au public.
Okay.
À moins qu'il y ait une clinique, tu sais, dédiée à ça, en tout cas à Québec, je sais pas, là, mais à moins qu'il y ait une clinique dédiée à ça à Québec, je pense pas. Puis, tu sais, considérant aussi tout ce que, tu sais, comme un peu je vous parlais, là, tout ce que ça coûte faire une transition, là, c'est vraiment pas donné. De devoir payer en plus pour avoir un examen gynécologique, pas sûr.
Je comprends.
C'est tellement en dessous la transition, là, devoir payer en plus pour faire un examen qui ne tente pas. Je pense pas. Mais c'est sûr que s'il y avait une clinique privée faite pour ça à Québec, je pense que ça ferait du sens.
OK, c'est ça. C'est ça, je me demandais s'il y avait des recours privés à
Peut-être.
Québec, je sais pas, là.
Peut-être que ça existe, mais j'en ai jamais entendu parler. Mon premier réflexe, ça serait de dire qu'à Québec, il n'y en a pas, là, mais je ne veux pas m'avancer sur des choses que je ne suis pas sûre à 100%.
Ouais, non, je comprends. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de cette sphère très importante à considérer dans la pratique médicale. Cette discussion très intéressante aura certainement éclairé les étudiants sur la pratique à adopter afin d'être plus inclusif, le plus inclusif possible. Merci encore et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode du Balado Midi.
Merci beaucoup à vous.